Comme tous nos clients prévoyants, mettez votre famille à l'abri avec l'assurance décès. Suno Assurance, notre métier d'assurance.
Priorité santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Travail, délivrance, expulsion, le vocabulaire associé à l'accouchement traduit à la fois l'effort et l'aboutissement. Un événement d'une intensité rare dans la vie d'un être humain qui peut émerveiller, qui peut émouvoir, qui peut choquer, en fonction bien sûr du déroulement des différentes phases, des contractions à la dilatation, de la poussée à la délivrance. 140 millions de naissances chaque année sur la planète et des conditions de la venue au monde qui vont dépendre de multiples critères, l'accès au système de santé, les ressources, mais aussi le niveau d'éducation, l'âge de la mère, les croyances familiales, l'accès à la contraception ou encore le nombre de grossesses, préparation, monitoring, césarienne, voix basse, péridurale, épisiotomie. L'accouchement, c'est donc aussi ce vocabulaire bien particulier, des gestes, des techniques, pas toujours accessibles, des savoir-faire qui évoluent avec les années. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'accouchement en milieu médical, dans des maternités où tout est mis en œuvre par les soignants pour accueillir le bébé dans les meilleures conditions et accompagner la mère. Arrivée de l'enfant, accouchement dans un contexte de sécurité et de bienveillance, pour ces journées pas comme les autres qui vont également transformer la vie d'une femme, la vie d'un homme, pour donner naissance à des parents. L'accouchement, sa préparation, son déroulement, pour en parler avec nous, professeur Israël Nizan, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur émérite de gynécologie obstétrique à l'Université de Strasbourg. Nous retrouverons dans les studios de Radio France Lyon, Sylvie Cochet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sage-femme et votre expérience, vous en avez tiré le livre « Poussez Madame », sous-titré « Confession illustrée d'une sage-femme », recueil d'anecdotes collectées en salle d'accouchement, publié aux éditions de L'Opportun. Naissance, bienveillance, nous joindrons le docteur Patrick Fournet, gynécologue obstétricien à Saint-Aignan, près de Rouen. Sa maternité est la première en France à avoir obtenu le label délivré par le Collège national des gynécologues obstétriciens français, collège que vous présidez, professeur Israël Nizan. Et nous retrouverons à Cotonou le docteur Jean-Paul Dossou, chercheur au Centre de recherche en reproduction humaine et en démographie à Cotonou. En fin d'émission, on retrouvera le docteur Catherine Solano, sexologue, qui va répondre à la question d'un auditeur.
Priorité santé sur RFI.
Professeur Israël Nizan, après des décennies de pratique, après des décennies d'exercice et d'enseignement, est-ce qu'un accouchement, ça reste un moment à part pour un praticien, pour un gynécologue obstétricien ?
Je ne connais personne pour qui ce soit banal d'assister à la venue d'un nouvel être et de voir les premières minutes, les premières secondes de son lien avec un père, avec une mère. Bien sûr, il y a eu du lien avant la naissance, mais la naissance est un moment inouï et je ne crois pas qu'on puisse assister à une naissance sans avoir la larme à l'œil.
Qu'est-ce qui distingue, hein, dans le vocabulaire, on va dire, commun, professeur Nizan, un accouchement simple de certaines naissances, on va dire, plus compliquées, plus problématiques? Les facteurs qui vont faire que telle ou telle naissance va demander davantage d'attention, peut-être davantage de gestes de la part des soignants?
Certains de ces facteurs sont prédisables, les détecter à l'avance, d'autres moins. Et ça rend notre discipline très difficile puisqu'il y a des événements qui peuvent se produire sans même l'aide du corps médical, quel qu'il soit. Et on accouchait bien avant qu'on ait inventé les obstétriciens et même les sages-femmes. Mais les femmes étaient toujours accompagnées dans l'espèce humaine parce qu'il y a un élément qui est extrêmement important, c'est que pour que les épaules puissent passer dans le bassin, il faut qu'il y en ait une qui passe et puis après l'autre. Pour cela, il faut tirer la tête vers l'arrière, ce qu'une femme ne peut pas faire toute seule. Donc ça fait depuis la nuit des temps que les femmes dans l'espèce humaine accouchent avec quelqu'un qui les aide. prédire une pathologie, on peut le prédire. Une femme qui a de la tension artérielle, une femme qui a une pathologie préexistante, on peut prédire les problèmes. Mais il y a des complications inopinées qui surviennent sans crier gare. La plus connue d'entre elles, c'est l'hémorragie de la délivrance. Près de 80% des hémorragies de la délivrance surviennent sans qu'il y ait eu quoi que ce soit qui permette de la prédire.
Ça veut dire une fois que le bébé est né, on dit ça y est, en gros, le travail est fait. Eh bien non, là, il va y avoir un moment de tension où il va falloir intervenir.
Il faut alors intervenir parce que la vie de la mère est en danger. Et donc, ça a entraîné dans notre pays le fait que très peu de femmes accouchent à domicile, puisqu'il y a des complications graves qui peuvent se déclencher sans qu'elles soient prévisibles. On a installé dans beaucoup de maternités de France des lieux d'accouchement qui sont des lieux cosy, qui sont un prolongement du salon salle à manger et où on peut accoucher sans gestes médicaux, de manière physiologique. Mais ça sous-entend qu'au moindre pépin, on donne un coup de pied dans la porte et qu'on a tous les moyens pour intervenir. Cette sécurité-là est indispensable à l'accouchement et on dit entre nous qu'un accouchement est normal lorsque 2 heures après celui-ci, il n'y a pas eu de complication.
Ça veut dire aussi, ça explique pourquoi la maman reste un temps en observation, ce n'est pas elle qui se lève et qui va par exemple donner le premier bain au bébé.
Ça pourrait. Mm-hmm. Lorsqu'un accouchement est strictement normal, rien ne s'oppose à cela.
Même si on peut rester en observation justement pour voir s'il n'y a pas ce moment hémorragique, il faut combien de temps pour s'en assurer ?
2 heures.
2 heures. Alors, on vous retrouve à Lyon où vous exercez, Sylvie Cochet, donc sage-femme. Combien de bébés avez-vous mis au monde, Sylvie Cochet ?
C'est une question qu'on me pose régulièrement, c'est une question à laquelle il est très difficile de répondre parce que on ne fait pas le compte, mais on peut estimer sur mes 35 ans d'activité que 10 000 bébés, c'est peut-être un nombre assez proche de la réalité.
Une belle ville alors. La plupart de ces bébés sont venus au monde. Vous étiez seule soignante, bien sûr, avec infirmière ou aide-soignante, avec ou sans médecin ?
Alors moi, j'ai toujours travaillé dans des établissements privés, ce qui veut dire qu'il y avait toujours la présence d'un médecin obstétricien dans la salle d'accouchement, ou s'il n'était pas présent, il n'était pas loin. Beaucoup des accouchements faits dans le secteur privé sont faits par les sages-femmes quand les médecins nous laissent la main, parce que c'est notre métier et notre récompense que de sortir ce bébé. Mais effectivement, nous avons toujours un médecin auprès de nous.
C'est une spécificité française où on retrouve ça un petit peu partout dans le monde, professeur Israël Nizan, ce duo, pas du tout infernal, au contraire, ce duo très bénéfique, sage-femme obstétricien.
C'est lié à l'obstétrique qui a un spectre extrêmement large entre tout est normal ou des complications qui peuvent mettre en danger la vie de la mère. Et celles-ci peuvent se déclencher en 3 minutes. Et donc on a l'habitude de dire que nos 2 métiers sont complémentaires et que lorsque le tandem sage-femme-médecin s'entend bien et se font confiance, c'est une vraie chance pour la femme.
Sylvie Cochet, alors le début du travail, comment savoir s'il s'agit de contractions qui préfigurent l'accouchement ou bien ce que l'on désigne comme un faux travail ?
Alors, rien ne ressemble plus à un vrai travail qu'un faux travail, parce qu'un faux travail, ce sont des contractions régulières, rapprochées, qui durent depuis un certain temps et qui sont particulièrement désagréables à supporter. C'est en général un examen médical fait par la sage-femme ou l'obstétricien qui permet de déterminer si ces contractions sont effectivement efficaces et commencent à faire dilater le col. Le seul diagnostic de début de travail, c'est un col qui se modifie et qui commence à se dilater.
Alors, question très simple, hein, mais pas mal de femmes se la posent tout de même, Sylvie Cochet. Pourquoi certaines femmes ne perdent pas les os ?
Pourquoi certaines femmes ne perdent pas les os ? Je ne suis pas sûre d'avoir la réponse. Moi, j'ai eu plusieurs bébés qui sont nés complètement enveloppés dans leur membrane et dans leur petite piscine. Voilà, ça n'est pas la condition sine qua non d'un accouchement. Il est vrai que, en général, la membrane se rompt spontanément en cours de travail parce que les contractions font que ça tiraille sur ces membranes. L'ouverture du col tire sur les membranes et ces membranes se déchirent. Nous-mêmes, en cours de travail, pendant les examens, à un certain stade de dilatation, nous pouvons être amenés à percer de manière artificielle ces membranes pour favoriser l'avancée du travail. Mais il arrive, je vous dis, que des enfants naissent avec les membranes sur la tête. C'est ce qu'on appelle des enfants nés coiffés.
Coiffés.
Et la sagesse populaire, ou je ne sais pas si c'est une sagesse, mais dit que ces enfants auront une vie pleine de chance.
Alors, ce qu'on dit souvent, c'est qu'il n'y a pas une naissance comme les autres. On entend dans les témoignages, on entend en tout cas dans les questions qu'on a eues de la part d'un certain nombre d'auditrices, certaines craintes. Professeur Israël Nizan, cette peur de l'accouchement, qu'est-ce que vous disent les femmes? De quoi ont-elles peur précisément?
La peur est ancestrale. Dans l'espèce humaine, la mortalité maternelle est de 800 pour 100 000 naissances. Et donc, dans toutes les familles au siècle dernier, il y avait des femmes qui étaient mortes en couche, d'où les douleurs. Venir à l'accouchement, il y a une espèce de peur ancestrale qui se maintient, qui est de mourir. Aujourd'hui, on ne sait beaucoup moins qu'on peut mourir en couche. Il y a en France 80 décès par an en couche, c'est pas zéro. On estime avoir une mortalité maternelle extrêmement faible, mais je pense que c'est un peu l'inconnu, l'aventure, le fait que on va avoir des personnes qui touchent à l'intimité, le fait de d'être mise en danger, qui fait que toutes les femmes ont peur de l'accouchement.
Sylvie Cochet, qu'est-ce qui rassure les femmes que vous accouchez? Qu'est-ce qui les rassure?
La communication. Il faut absolument les écouter. Il faut déjà qu'elles puissent nous dire ce dont elles ont peur. Dès l'instant que c'est formulé, ça va déjà mieux. Il faut leur dire qu'on est là pour les accompagner. Notre rôle, il est là, en fait, principalement. C'est-à-dire que on est là pour les rassurer, les accompagner, les stimuler, les encourager. Enfin, je veux dire, le travail en lui-même, qu'on soit là ou pas, se ferait. Ce bébé trouverait sa voie, sans doute, sans notre présence. Mais nous, on est là vraiment pour les épauler, vraiment.
Facilitatrice, quasiment médiatrice de vie. Professeur Israël Nizan, le Collège national des gynécologues obstétriciens, a donc décidé, c'est tout récent, d'attribuer un nouveau label aux maternités qui s'engagent à mettre la bienveillance au centre de leurs activités, qui acceptent la transparence sur leurs pratiques. On va tout de suite partir pour l'ouest du pays, pour la région de Rouen. Docteur Patrick Fournet, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes gynécologue obstétricien.
Oui,
vous êtes gynécologue obstétricien à Mont-Saint-Aignan. Donc votre maternité, c'est la toute première à avoir reçu ce fameux label. Qu'est-ce que ça garantit? Qu'est-ce que cela implique? Il y a 12 critères, on va pas tous les citer. Mais est-ce que vous avez changé quelque chose ou finalement vous n'avez fait que valider, que mettre en avant ce que vous faisiez déjà?
Alors on a d'abord validé ce que l'on faisait d'abord puisqu'on rentrait dans les critères du label. Donc on a fourni les chiffres d'épisiotomie, les chiffres de césarienne, les chiffres de déclenchement qui correspondent aux chiffres nationaux et qui nous ont permis d'obtenir ce label. Ça va nous permettre d'afficher ces chiffres, ce que personne ne faisait auparavant et ce que maintenant les maternités labellisées vont être amenées à faire. Donc les patientes sauront, lorsqu'elles arriveront dans une maternité, quel est le taux d'épisio, quel est le taux d'extraction instrumentale, quel est le taux de déclenchement.
C'était des questions qu'elles se posaient, justement, ces femmes qui allaient accoucher?
C'est des questions qui sont venues au niveau de l'actualité, que les patientes viennent à nous poser maintenant, en particulier sur le taux d'épisiotomie. Et on a pu voir qu'il peut y avoir une disparité, même si la grande majorité des maternités avaient des taux d'épisio relativement satisfaisants, mais il est toujours bon de se poser la question de comment s'améliorer. Et cet affichage va nous permettre d'abord de dire ce que l'on fait et de se poser la question de comment allons-nous pouvoir nous améliorer.
Comment ça a été accueilli du côté des soignants, docteur Patrick Fournet?
Du côté des soignants, c'est une nouvelle énergie qu'on remet en place. On fait le point et puis on s'engage dans quelque chose qui va nous amener à être encore meilleur sur la délivrance de l'information et on va s'aider avec ça de la plateforme Maternis. On va s'engager à développer l'entretien prénatal précoce qui, en France, est actuellement peu développé. on était aux alentours de 27 à 30% dans la maternité. On va mettre en place, et j'ai mis en place des réunions avec les sages-femmes qui font de la préparation à la naissance de manière à voir comment on pouvait s'améliorer. On s'implique, s'impliquait déjà dans les soins en matière d'allaitement, et on va encore faire mieux, mais on avait déjà une maternité qui s'impliquait fortement depuis de nombreuses années dans ce projet-là. On va formaliser les projets de naissance qu'on avait déjà mis en place, la traçabilité de ces projets de naissance. On va permettre des choses qu'on faisait déjà, mais on va inciter les autres maternités à y aller parce que si on a choisi ici au Belvédère d'être la première maternité à être labellisée, on s'engage à ce que ce label soit diffusé et on va essayer de le diffuser dans la région, au niveau des cliniques et des autres hôpitaux. Et on met une énergie dans une maternité. On s'est réuni récemment sur la prise en charge de l'hyperémésie gravidique. On a mis en place un groupe de travail. On va mettre en place de façon plus formelle l'entretien de suite de couche lorsque les choses se passent pas bien. Tous ces éléments que pour lesquels on s'est engagé et pour lesquels dans un an, à juste titre, le CNJOF demandera des comptes. Et en fonction de tout ça, en fait, on remobilise les équipes dans un contexte hospitalier difficile, dans un contexte de maternité en crise comme nous le sommes. Ça permet de remettre une énergie, ça permet de mettre un peu de peps vis-à-vis des soignants qui ont été relativement maltraités par la polémique qui a eu lieu il y a quelques années.
On va l'aborder.
Maltraitance vis-à-vis des soignants, je pense que le label permet de la prendre en charge et surtout ce label va permettre d'apporter aux patients une information grâce à la plateforme qui leur permet de visualiser des vidéos, vidéos qui ont été faites par la Société Savante en collaboration avec des professionnels, avec des femmes, avec des usagères, et vidéos qui vont être alimentées, on l'espère et on en est sûr, par des vidéos sur la grossesse normale, sur la gynécologie dans les années qui viennent.
Nouveau souffle donc pour vos équipes. On vous remercie beaucoup pour ce témoignage, docteur Patrick Fournet. Je rappelle que vous êtes gynécologue obstétricien à Mont-Saint-Aignan. Professeur Israël Nizan, justement, on vous retrouve en studio. Cette polémique dont parlait le docteur Fournet, c'était toute cette discussion, notamment dans la presse, dans les médias, autour des violences obstétricales. Il y avait des témoignages de femmes qui disaient qu'elles ressentaient aussi bien physiquement que psychologiquement des choses qui ne s'étaient pas bien passées le jour de leur accouchement, avant, après. Comment vous aviez ressenti justement cette remontée d'informations et ce terme en particulier de violence obstétricale?
Alors le terme de violence obstétricale vient d'Amérique latine et il a quelque chose de gênant pour la profession, c'est que ça sous-entend que c'est délibéré.
Il y a une intentionnalité.
Et nous contestons ce terme comme les policiers contestent le terme de violence policière. Ils disent on se lève pas le matin pour aller faire du mal aux manifestants et aucun obstétricien ou sage-femme ne se lève le matin pour aller faire du mal à une femme.
Il y a l'intention mais il y a les faits.
En revanche, il y a beaucoup de femmes qui se sortent de leur grossesse ou de leur accouchement avec une impression soit que ça s'est pas bien passé, soit même qu'elles ont été maltraitées. Et donc, nous ne pouvons pas et nous ne pouvions pas ne pas entendre cette doléance. Et pour ne pas rester inactifs, dans une période, comme l'a dit Patrick Fournet, où les choses sont difficiles pour les maternités, 50% des maternités n'ont pas les effectifs nécessaires pour travailler en sécurité. Mais malgré cela, nous ne voulions pas passer à cette période-là sans dire aux maternités, et si on faisait tous un effort, quelles sont les choses que nous reprochent les femmes? Elles nous reprochent le manque de transparence, elles nous reprochent le manque d'information, elles nous reprochent de ne pas avoir sollicité leur consentement, et elles nous reprochent de ne pas pouvoir avoir barre sur ce qui se passe dans les maternités. Le label répond à toutes ces demandes, c'est le début du label, il va s'améliorer, on a l'aide des sages-femmes, on a l'aide de patientes et on va améliorer cela. Mais c'est la première fois qu'une discipline dit on va pas demander aux médecins s'ils sont contents de ce qu'ils ont fait, parce qu'ils le sont, mais on va demander aux patientes si elles sont satisfaites des soins qu'elles ont eus.
Alors, il n'est pas question de compétences, on l'a compris. Il est vraiment question là de relationnel, d'écoute et vraiment de cette relation de confiance pour accoucher en pleine confiance. On parlait tout à l'heure justement du rôle de la sage-femme. On comprend bien que ce lien est essentiel. Il faut aussi retisser ce lien même avec l'obstétricien, des fois qui est appelé en dernière ressource quand il se passe justement un problème.
Tout à fait. Une des choses que nous avons identifiées, c'est que quand un obstétricien intervient en urgence et que le lendemain, il n'est plus là parce qu'il est en repos de sécurité, et que la femme n'a pas eu d'explication sur ce qui lui est arrivé, ça peut être le début d'un syndrome de stress post-traumatique. Je ne suis pas sûr que dans l'institution où je travaille, toutes les femmes aient la possibilité de revoir celui qui a fait une césarienne en urgence dans la nuit. Et donc, on va poser la question aux femmes. Avant votre sortie, avez-vous vu celui qui vous a fait une épisiotomie, une césarienne en urgence, une extraction instrumentale? Oui, non. Si les femmes nous répondent non, ça veut dire que la maternité qui s'était engagée ne respecte pas son contrat.
Donc il y a vraiment à rétablir des choses. On va tout de suite donner la parole aux auditrices de l'émission.
Priorité santé sur RFI.
Alors bien sûr, depuis le début de cette émission, on parle du contexte français, hein, de l'accouchement, système de santé, même s'il y a des problèmes dans les maternités, dans les hôpitaux publics, comme le souligne l'actualité, un excellent système de santé, un excellent accès aux soins. On a nos auditrices qui nous ont bien évidemment appelées d'Afrique subsaharienne avec des témoignages différents, mais des questions qui sont toujours les mêmes. L'essence de cette vie, l'essence de cette naissance. Et on prend tout d'abord en ligne de Côte d'Ivoire, d'Abidjan, on prend en ligne Karine. Bonjour Karine.
Bonjour.
Alors, le professeur Nizan vous écoute. Sylvie Cochet aussi à Lyon, sage-femme, est à votre écoute. Allez-y.
Voilà, je suis Karine, j'ai 31 ans. Je suis pratiquement au terme de ma grossesse. Il me reste pratiquement 10 ou 7 jours. Et j'ai déjà eu une primipare qui est née prématurément et quelques jours après qui n'est pas restée, qui est partie. Et là, je suis, comme on va dire, à ma deuxième grossesse. Et là, vraiment, comme on dit, c'est un bébé qui est beaucoup attendu. Donc du coup, j'aimerais vraiment remplir toutes les conditions pour me donner toutes les chances d'avoir un accouchement normal. Parce que la précédente fois, j'étais pas préparée. Et quand j'étais en salle, je pensais pousser, mais les sages-femmes me disaient que je criais. Alors que je pensais donner toute ma force, mais il paraît que je criais, je ne faisais que crier, que je ne faisais pas d'effort véritablement. Donc, et la douleur était tellement énorme que j'ai eu à faire même pratiquement mes besoins sur moi et tout, c'était vraiment pas facile. Donc j'ai pas gardé, comme on va dire, un bon souvenir. C'est vrai que j'ai eu cette chance. Il y avait deux femmes en salle. Il y avait une en salle qui était vraiment à mes côtés, à mon écoute, et par contre l'autre c'était tout le contraire.
Elle vous disait quoi? Elle vous criait dessus alors que vous étiez en train d'accoucher.
Oui, elle me criait là-dessus, elle me disait que je n'étais pas une enfant, qu'il y avait des personnes moins âgées que moi qui venaient accoucher et qui ne faisaient pas autant de cinéma. Alors que moi, c'était ma toute première grossesse, j'étais primipare, mais si j'avais 30 ans, j'étais primipare, je ne savais pas comment ça se passait. Et en plus de ça, mon bébé était prématuré à 32 semaines, 32, 33 semaines. Donc c'est quelque chose à quoi je ne m'étais pas véritablement préparée.
Ça veut dire, Karine, d'une certaine manière, comme cette sage-femme vous a crié dessus en disant que vous ne faisiez pas bien les choses, alors que bien évidemment ce n'était pas le cas, vous vous êtes sentie responsable de ce qui s'est passé après pour votre bébé?
Oh, quelque part un peu, oui. Je me suis dit que peut-être que si je l'avais expulsé plus tôt, c'est vrai que je me suis remis en question longtemps, et même cette grossesse elle s'est pas passée sereinement parce que à cause du stress surtout. Pas pour autre chose, parce que je voulais tellement bien faire les choses, je veux tellement bien faire les choses. Donc du coup, je faisais même plusieurs échographies dans le mois et tout. Là, je pense pouvoir accoucher sans péridurale parce que j'ai pas les moyens d'accoucher dans un établissement privé. Parce que c'est dans les établissements privés qui proposent la péridurale. Ici, on n'en parle même pas. Quand vous allez en parler, on va vous regarder de haut. Mais qu'est-ce qu'il raconte?
Et vous allez accoucher où, là, à Cocody À Yopougon, vous...
Non, non. Le CHU de Yopougon à Abidjan, ici, il est fermé.
Il est fermé, oui.
Il y a le CHU de Cocody qui a ouvert. Il y a le CHU, il y a un nouveau CHU qui a ouvert, qui est à Hongré. Mm-hmm. Et puis, il y a un hôpital qui est dans la partie sud, qui a un bloc opératoire en son sein, qui est l'hôpital général de Port-Beau, qui est beaucoup sollicité, un peu même trop sollicité. Mm-hmm. Donc, du coup, le traitement, il y a du monde.
Il y a du monde.
Le fait que le CHU soit fermé, c'est compliqué.
Il y a un peu trop de monde qui arrive. Sylvie Cochet, je m'adresse à la sage-femme. Bien évidemment, pas question de commenter ce qu'a fait votre consœur lors du premier accouchement de Karine à Abidjan. Mais qu'est-ce que vous pouvez dire à Karine pour la rassurer? Elle a eu des cours de préparation un petit peu trop rapides à ses yeux. Qu'est-ce que vous pouvez lui expliquer sur justement le moment de la délivrance, de cette poussée pour la rassurer?
Alors, je voulais déjà juste commencer par lui dire de ne surtout pas culpabiliser. Mmh. Parce que, pousser, c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident. Toutes les femmes, je vois, elles y mettent tout leur cœur. C'est une technique. C'est pas toujours facile. Elle n'y est pour rien. Si l'expulsion a été longue, etc., ça n'est pas sa faute. Ça n'est pas la faute des femmes quand ça dure longtemps ou quand c'est difficile. Il faut absolument qu'elles en soient convaincues. Il ne faut absolument pas qu'elles culpabilisent. La deuxième chose, c'est ce que je voudrais lui dire, c'est que il faut qu'elle garde confiance en elle-même parce que c'est une battante. Moi, vu comme je l'entends parler, mmh. c'est une battante. Elle a vachement bien compris. Excusez-moi le terme, mais je suis dans l'émotion. Elle a compris ce qui s'était passé. Elle veut tout faire pour faire mieux. Et je pense que, voilà, il faut qu'elle communique avec la personne, la sage-femme qui l'accueillera. Il faut qu'elle lui communique ses peurs. Il faut qu'elle lui en parle. Il faut qu'elle dise ce qu'elle a pu ressentir et ce qu'elle appréhende pour qu'elle travaille en équipe. Et que la personne qui est en face d'elle sache ce qu'elle a vécu avant et qu'elle l'accompagne et qu'elle l'aide à passer au-delà de ça. Voilà, je pense qu'elle a été beaucoup mieux préparée cette fois. Elle arrive près du terme, les circonstances sont complètement différentes. Donc, il y aura moins le stress d'un enfant né prématuré et beaucoup plus fragile. Mais il faut qu'elle se fasse confiance parce qu'elle est forte. Je suis sûre qu'elle est forte.
Karine, vous êtes prête à dire le jour J, quand vous arriverez en salle d'accouchement, à cette sage-femme que vous allez rencontrer, j'ai besoin que vous m'encouragiez. J'ai besoin que vous m'aidiez. On va faire équipe toutes les deux. J'ai pas besoin qu'on me dispute. Moi, j'ai besoin qu'on m'aide. Vous êtes capable de lui dire ça?
Bien sûr, ça ne me gênerait pas. C'est le retour. On espère que le retour sera pareil.
Bien évidemment. Bien évidemment.
Voilà. Maintenant, j'ai un autre souci aussi. À ma dernière consultation, on m'aurait dit que ma hauteur utérine était un peu élevée et que peut-être que ça nécessiterait une césarienne. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas si on peut m'éclaircir là-dessus.
Ben là, je me tourne vers l'obstétricien professeur Nizan. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Même si, bien évidemment, pas de consultation par téléphone et par radio, encore moins. Mais juste peut-être des questions que Karine pourrait poser au médecin pour qu'il l'éclaire un petit peu.
Je pense que sur la hauteur utérine simple, on ne peut pas prendre une décision de césarienne. Si le bébé a la tête en bas, il faut laisser se faire le travail et il faut savoir, Karine, qu'un deuxième accouchement est en général plus facile que le premier. Donc, aller en confiance le fait de proposer une césarienne avant tout début de travail simplement sur une hauteur utérine, je pense que c'est pas légitime. Il faut entrer en travail, regarder comment ça se passe, regarder comment se fait la dilatation et la descente de la tête. Et si tout cela se fait normalement, il n'y a pas de raison de faire une césarienne.
Voilà pour cette réponse. Eh bien, très bonne journée à vous, Karine. Donnez-nous des nouvelles quand le bébé sera là. Et bon courage pour tout ça. Mais je suis certaine que tout va très, très, très bien se passer. On vous encourage en tout cas. Très bonne journée à Abidjan. On part pour le Congo-Brazzaville, pour Pointe-Noire. Michel, en ligne avec nous. Bonjour, Michel.
Bonjour à toute l'équipe.
Bonjour à vous. On vous écoute. Allez-y.
Voilà, j'ai 31 ans, mmh. J'ai fait ma première fille à 28 ans, elle est née prématurément, à 7 mois, avec moins de 2 kilos, 1,9 kg, et j'étais suivie par une sage-femme à l'époque. Je constatais que je saignais, j'en ai parlé, elle m'a demandé de faire une échographie, et on a constaté que mon col était ouvert. Elle m'a dit que c'est pas trop grave, il faut juste beaucoup se reposer. Ce que j'ai fait,
Mais à 7 mois, j'ai accouché. C'est vrai que ce n'était pas du tout facile parce qu'après, j'ai passé beaucoup de temps à la néonat avec la petite. Mmh. Actuellement, je suis enceinte de 5 mois. Mmh. Et quand je suis en intimité avec mon mari, je sais mettre et j'ai décidé de faire une écho. Je lui ai expliqué mes antécédents. Il m'a demandé.
La ligne se dégrade, Michel. Donc, votre gynécologue vous a conseillé d'avoir un geste, justement, pour éviter une dilatation et d'avoir une autre naissance prématurée, c'est ça?
Oui, donc, à cercler le col.
D'accord. Oui. Donc, la question, c'est, est-ce que, lorsqu'on a eu, justement, comme ça, des contractions, des saignements, professeur Israël Nizan, une fois que le col est cerclé, est-ce qu'il y a un risque d'un autre accouchement prématuré?
Le cerclage protège à moitié de la récidive d'accouchement prématuré, pas totalement. S'il était totalement efficace, ça se saurait. Donc ce qui complète le cerclage, c'est de se reposer, de ne pas faire d'efforts, et c'est probablement dû au fait que Michel a une béance du col. Cette béance, c'est une petite anomalie de l'utérus. Le cerclage compense en grande partie la béance, mais ce qui compense également, c'est le repos et le fait de se ménager.
Donc, écoutez-vous, reposez-vous, on souffle et on va tenir jusqu'au bout. Très bonne journée à vous, Michel, à Pointe-Noire, au Congo. On va au Mali, on va à Bamako. Taïrou est en ligne. Taïrou, eh bien vous allez très 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 bientôt être papa. On vous donne la parole, allez-y, bonjour.
Bonjour Caroline.
On vous écoute, allez-y.
Voilà ma préoccupation. Ma femme, elle a 42 semaines, elle est presque à terme. Mm-hmm. Maintenant, jusqu'à présent, le médecin dit que le col n'est pas ouvert. Mm-hmm. Il est couché carrément. Bon, maintenant, il doit avoir une préoccupation de l'accouchement. Mm-hmm. Maintenant, la question est de savoir quels sont les risques à encourir pour cette provocation et pourquoi se presser pour provocation alors qu'il y a des grossesses qui valent jusqu'à 11 mois.
Des grossesses à 11 mois, non, je ne pense pas. Hein. Je pense que, professeur Israël Nizan, vous n'allez pas... Ou alors pour une autre espèce, je ne sais pas, animal que l'être humain, mais pas de grossesse à 11 mois pour une femme. Je pense que vous n'allez pas me contredire, professeur Nizan.
Non, la grossesse dure toujours 9 mois. Ce qui peut perturber, c'est quand on ne sait pas exactement quand la grossesse a commencé. Et certaines femmes peuvent par exemple avoir des règles au début de leur grossesse, ce qui les trompe sur l'âge de la grossesse, et d'autres femmes peuvent avoir une grossesse qui survient alors qu'elles n'avaient plus de règles depuis un moment, ce qui les trompe également dans l'autre sens sur l'âge de la grossesse. Mais des grossesses qui durent 11 mois, pas chez les humains, ça n'existe pas. On s'est aperçu que quand la grossesse dépasse 280 jours, c'est-à-dire 42 semaines, on rentre dans une zone de risque. Et si le risque baisse pour l'enfant au fur et à mesure qu'on s'approche du terme, au fur et à mesure qu'on s'éloigne du terme, parce que l'âge gestationnel est dépassé, le risque réaugmente. Et donc les gynécologues ont pris l'habitude de ne pas aller au-delà de 42 semaines quand ils sont sûrs de l'âge de la grossesse. S'ils ne sont pas sûrs de l'âge de la grossesse, tout ceci est caduque. Mais quand ils sont sûrs de l'âge du début de la grossesse, ils proposent un déclenchement de l'accouchement à 42 semaines qui est relativement sans risque. En tout cas, c'est moindre risque que de laisser se poursuivre un dépassement de terme.
En tout cas, ce qu'on entend dans le témoignage de Taïrou, c'est qu'il s'inquiète de ce déclenchement tout de même, parce que on dit normalement, on laisse faire la nature. Un petit peu partout, les parents ont envie que cela se passe le plus naturellement possible. D'ailleurs, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec ces maternités bienveillantes. Éviter les gestes chirurgicaux, éviter la surmédicalisation. Qu'est-ce qu'on peut dire à Taïrou? Beaucoup de femmes ont un accouchement déclenché et pour elles, Sylvie Cochet, eh bien en général, ça se passe, on peut dire, hein, dans la grande majorité des cas, ça se passe extrêmement bien.
Oui, bien sûr, dans la majorité des cas, ça se passe bien. Mais bien évidemment qu'il faut qu'il y ait une indication à ce déclenchement ou que le col soit extrêmement favorable et que ce ne soit plus que, entre guillemets, une formalité que de mettre le travail en route. Ce déclenchement se fait toujours dans un lieu avec une surveillance importante. Donc, on surveille la maman, on surveille le bébé. On ne prend pas de risque. Dans le cadre d'un dépassement de terme, il est moins risqué de déclencher que d'attendre, comme a dit le professeur Nizan. C'est bien évident. Et le déclenchement lui-même se termine en général par la venue d'un bébé en bonne santé avec une maman en bonne santé.
Voilà, Taïrou, est-ce que vous êtes rassurée ?
Un peu.
Allez, on va progresser. Tout va bien se passer. En tout cas, c'est une question d'heure. C'est quand ? C'est aujourd'hui le déclenchement ?
Oui, c'est aujourd'hui. Cet après-midi même.
Cet après-midi. Eh bien, très bon courage à votre épouse. Elle s'appelle comment ?
Elle s'appelle Fatouma.
Eh bien, Fatouma, très bon courage à vous. Et on dit rien, mais bon courage à tout le monde. Et petit message pour nous dire comment ça s'est passé. Peut-être qu'on aura déjà des nouvelles dès demain. On va poursuivre cet échange. On va partir tout de suite pour le Bénin.
Priorité santé sur RFI.
Et on vous retrouve, docteur Jean-Paul Dossou. Bonjour.
Bonjour, Caroline Paré.
Vous êtes chercheur au Centre de recherche en reproduction humaine et en démographie à Cotonou. Vous travaillez donc sur cette question de la santé maternelle et infantile, la qualité des soins pour réduire bien évidemment la mortalité maternelle. Alors, dans un pays comme le Bénin, déjà, docteur Dossou, quelle proportion de naissances en milieu médical ?
Alors, près de 90% des accouchements se passent dans une formation sanitaire au Bénin.
Ça veut dire, par exemple, un centre de santé, un hôpital, avec au moins une sage-femme, c'est ça, ou des fois simplement une infirmière ?
Alors, la question de la personne qui est dans cette formation sanitaire et qui assiste la femme pendant l'accouchement est à discuter. Parfois, il y a des sages-femmes, mais elles ne sont pas toujours au poste, au moment où la femme en a le plus besoin. Et les questions de charge de travail encore et de distribution de cette ressource humaine là partout dans le pays, fait que même si c'est dans une formation sanitaire, on n'a pas la garantie que l'accouchement se passe toujours avec une personne qualifiée.
Pas toujours une personne qualifiée. On a entendu tout à l'heure une auditrice qui nous disait « J'aurais aimé avoir une péridurale, donc cette anesthésie pour ne pas ressentir forcément toute la douleur des contractions. Elle le paye de sa poche. » Et ce fardeau financier de l'accouchement, eh bien, c'est une réalité, docteur Jean-Paul Dossou, et ça ne contribue pas vraiment à faciliter justement ce moment décisif de la vie des femmes et de la vie des bébés.
Alors, le fait de payer avant de recevoir les soins est une problématique générale dans plusieurs pays, en Afrique subsaharienne et dans d'autres pays du monde. Mais au Bénin, et dans plusieurs pays en Afrique, ça prend une connotation particulière parce que vous avez des populations très pauvres. Les femmes, encore plus au moment de la grossesse, ont des vulnérabilités particulières, sociales, par exemple la fragilité dans leur couple, etc., le statut de la femme qui est faible. Et au moment de l'accouchement, elle a passé 9 mois, le plus souvent, à ne pas peut-être travailler, ses ressources sont amenuisées. Et au moment de l'accouchement, elle est dans une dépendance totale, le plus souvent vis-à-vis de sa famille, pour pouvoir honorer les frais de soins. Quand ça se passe bien, il n'y a pas de problème. Mais quand elle arrive à l'hôpital pour l'accouchement et qu'on lui demande encore de payer alors qu'elle a plusieurs couches de vulnérabilité qu'elle doit subir, et ça crée vraiment une situation particulière de fragilité qui renforce encore la susceptibilité qu'elle soit victime de violence au niveau dans les formations sanitaires.
Violence dans les formations sanitaires, justement, avec vos recherches qui vous ont permis, tout à l'heure, on citait en France cette expression qu'on a beaucoup entendue il y a quelques années, violence obstétricale. Vos recherches, justement, vous avez recueilli des témoignages qui montrent qu'il y a véritablement des problèmes, des grosses choses à résoudre dans certains établissements de santé. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples ?
Alors, je suis ici pour dire que il faut éventuellement, bien entendu, pas généraliser, mais comme l'a dit le professeur Nizan tout à l'heure, ces témoignages des femmes sont de plus en plus récurrents et nous penchons sur la question au Bénin depuis près de 15 ans. Et ce que nous avons pu remarquer, c'est qu'on peut distinguer ce type de violence ou d'attitudes, de pratiques qui sont dommageables pour les femmes et que les femmes dénoncent. Il y a bien entendu la violence physique, il y a des aspects de violence sexuelle, la violence verbale, comme dans le cas de Karine tout à l'heure, qui l'a évoqué en Côte d'Ivoire, où la sage-femme criait sur elle, ou ne reconnaissait pas la souffrance telle qu'elle la vivait. Mm-hmm. Il y a les aspects de stigmatisation et de discrimination, que ce soit sur des questions d'ethnie, ou des questions de genre, ou des questions de pauvreté. Maintenant, il y a toute la dimension de l'incapacité à respecter les standards professionnels, que la sage-femme puisse faire par exemple des épisiotomies inappropriées ou des césariennes inappropriées. Et la sixième dimension, c'est la dimension pauvre rapport entre les femmes et les prestataires de soins, tout ce qui est en rapport avec la mauvaise communication, l'absence de transparence, le fait de ne pas être prévenu avant de recevoir les soins, des choses comme ça. Et le dernier point, c'est en rapport avec les contraintes systémiques qui font, par exemple, qu'il y a l'insalubrité dans le milieu de soins, les questions d'hygiène, de mauvaise hygiène hospitalière, l'absence de toilettes dans certaines formations sanitaires et autres.
Alors,
lorsqu'on voit la problématique dans cette perspective globale, on stigmatise moins le comportement individuel des sages-femmes ou des prestataires de soins d'une manière générale pour voir la question d'un point de vue plus systémique, comprendre comment il y a plusieurs facteurs systémiques qui sont favorables à l'émergence de cette violence.
Des recommandations globales qui touchent tout le système de santé, donc aussi à mettre en œuvre de la part des autorités médicales, mais aussi des autorités de tutelle, des autorités politiques. J'ai une question très pointue pour vous avant de conclure, docteur Jean-Paul Dossou. C'est Élise au Burkina qui demande, et je sais que vous avez la réponse, est-ce que la consommation de kaolin est néfaste pour la santé du bébé pendant la grossesse?
La consommation du kaolin est-elle néfaste pour le bébé pendant la grossesse? Ça, c'est a priori une question qu'il faut aborder de façon plus contextuelle. Il faut voir la consommation, le niveau de consommation, mais a priori, je ne vois pas un lien direct entre la consommation du kaolin et la santé du bébé.
En général, on parle de l'absorption de fer pour le kaolin qui pourrait poser problème après pour la santé de la mère et du bébé.
Ça, il faut voir avec le niveau de
consommation, la quantité.
De consommation, la quantité, et voir avec l'état de la mère au départ. Et tout ça, il faut l'aborder de façon contextuelle. J'éviterai de donner une conclusion générale sur ce genre de sujet.
Merci beaucoup, docteur Jean-Paul Dossou. Je rappelle que vous êtes chercheur au Centre de recherche en reproduction humaine et en démographie à Cotonou, au Bénin.
RFI à Cotonou, 90 FM.
On retrouve nos invités, professeur Israël Nizan avec nous en studio, à Lyon, en duplex de Radio France, Sylvie Cochet, sage-femme. On l'a compris, ces questions, ces expériences d'accouchement avec de la pratique, ce qui change, ce qui a changé notamment et ce qui va changer encore grâce à toutes ces recommandations pour améliorer ce lien. Sylvie Cochet, vous le disiez tout à l'heure, des décennies d'expérience, qu'est-ce qui a changé dans la manière de mettre au monde les bébés quand vous avez commencé et aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on a appris?
On a appris à mieux communiquer quand même, je pense. Les patientes ont besoin qu'on leur explique ce qu'on fait et pourquoi on le fait. Il est vrai qu'il y a une trentaine d'années, on avait tendance, sans malveillance hein, bien sûr, mais on avait tendance à faire les choses sans expliquer pourquoi. Parce que ça faisait partie de nos pratiques, parce que c'était dans l'habitude des choses et on considérait que les patientes nous faisaient une entière confiance et qu'on n'avait pas lieu de leur dire pourquoi on pratiquait tel ou tel geste. Voilà. On a beaucoup évolué dans ce cadre-là, on a beaucoup évolué dans la surveillance de grossesse et dans ce qu'on peut leur apporter, à savoir l'entretien de début de grossesse, la préparation à l'accouchement qui est beaucoup plus individualisée, l'écoute, le fait que le conjoint soit de plus en plus présent et inclus dès le début de la grossesse et tout ça, ça a beaucoup évolué. évoluer.
Justement, cette implication, cette responsabilisation des futurs parents, professeur Israël Nizan, vous avez-vous aussi l'impression que les médecins, eux aussi, en ont pris davantage conscience, même si c'est pour sauver une vie, hein, quand on est en train d'accoucher, quand il y a un problème, il faut faire ce geste, ça n'empêche pas d'expliquer ce que l'on fait.
Les médecins sont passés en 40 ans d'une situation de paternalisme qui n'est plus acceptée aujourd'hui. Est-ce la civilisation des droits de l'homme, quelle qu'en soit la cause, à une situation d'autonomie. Le médecin propose et le patient dispose. C'est un changement, c'est une véritable révolution dans la pratique du soin. Plus personne aujourd'hui, médecin, sage-femme, infirmière, n'a le droit, et c'est dans la loi, de commettre un quelconque geste sans le consentement du patient. Et le consentement nécessite au préalable une information. Ce qui veut dire que nous, dans le domaine de l'accouchement, nous sommes dans une situation un peu difficile. Nous ne pouvons pas dire à une femme, avant son accouchement, voilà les 100 complications qui peuvent se produire au cours d'un accouchement pressenti comme normal.
Ça se passe en direct, hein ?
Et donc, comme nous ne pouvons pas le dire, ben nous choisissons des choses qui sont particulières. Mais c'est pas forcément sur ce que nous avons. Si nous disions tout à une femme, nous n'aurions pas des accouchés, mais des rescapés. Donc, nous avons un véritable problème. On peut en chirurgie dire, voilà, tout ça peut se produire, et le patient peut dire au bout du compte, bah, puisque c'est comme ça, je ne me fais pas opérer. Mais aucune patiente ne peut nous dire, bah, puisque c'est comme ça,
je n'accouche pas.
Donc, on a une difficulté particulière en obstétrique, c'est de donner correctement l'information.
On vous remercie beaucoup d'avoir participé à cette émission des studios de Radio France Lyon. On remercie pour l'accueil, en particulier Claire Vuillot qui assurait la technique. Merci à vous Sylvie Cochet, sage-femme, auteur du livre « Poussez Madame » publié aux éditions de L'Opportun. Merci infiniment à vous, professeur Israël Nizan, professeur émérite de gynécologie obstétrique à Strasbourg, président du Collège national des gynécologues obstétriciens français. Et comme chaque semaine, on vous retrouve, docteur Catherine Solano. Catherine, bonjour.
Bonjour, Caroline Paré.
Vous êtes sexologue aujourd'hui. Vous allez répondre à une question Facebook qui est posée par Maria. Elle a constaté qu'après un premier rapport sexuel, lorsqu'elle souhaitait avec son compagnon en avoir un autre, environ 30 minutes après, eh bien, elle a remarqué donc, Maria, que la pénétration était plus compliquée, plus difficile, moins de lubrification. Alors elle se pose cette question donc qu'elle vous adresse, docteur Catherine Solano. Est-ce qu'il s'agit de sécheresse vaginale ?
Eh bien, je ne pense pas que ça soit un problème de sécheresse vaginale, parce que ça, son premier rapport sexuel se passe très bien. Je pense que c'est plutôt une question de période réfractaire. Donc je m'explique, quand on a un orgasme, le corps peut avoir besoin de temps pour se recharger en énergie. Donc il faut un certain temps avant d'avoir une deuxième relation sexuelle avec une aussi bonne lubrification. Et c'est vrai aussi pour les hommes, il faut un certain temps pour avoir une deuxième relation sexuelle avec une bonne érection. Ça veut dire qu'il faut attendre suffisamment pour que la lubrification soit bonne. Et donc je pense que 30 minutes, c'est sans doute pas assez pour le corps de Maria.
Alors attendre suffisamment, c'est quoi en pratique ?
Alors en pratique, je vais dire quand même une chose, c'est qu'il y a des femmes qui peuvent enchaîner plusieurs rapports sexuels sans avoir ce problème-là. Parce que, si vous voulez, il y a des femmes qui sont, on dit, multi-orgasmiques. Donc, qui n'ont pas de période réfractaire. Mais toutes les femmes peuvent avoir des orgasmes avec période réfractaire, c'est-à-dire où on ne peut pas recommencer tout de suite. Et donc, ce temps-là pendant lequel il faut attendre, ça varie beaucoup avec l'âge. Quand on a 17, 18 ans, 20 ans, c'est peut-être 5 minutes, c'est très rapide. Et puis, ce temps, il augmente avec l'âge. C'est-à-dire qu'une femme qui a 40 ans, peut-être qu'il faut qu'elle attende une demi-heure, trois quarts d'heure pour qu'un deuxième rapport sexuel se passe bien avec une bonne lubrification. À 70 ans, ça sera peut-être plus longtemps. Enfin, et donc, voilà, je pense que c'est pas du tout un problème de sécheresse vaginale, c'est un problème que le corps a besoin de temps pour se reposer après un rapport sexuel.
Voilà, simplement. Cette réponse pour Maria. Merci beaucoup, docteur Catherine Solano, et on vous retrouve très bientôt dans Priorité Santé. Priorité Santé touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui, chaque jour, la fabrique et la réalise. Demain, nous parlerons des relations frères-sœurs. Nous donnons la parole aux jeunes. Appelez-nous pour nous expliquer comment ça se passe à la maison. 33 1 84 22 75 75. À demain.
C'était Priorité Santé avec Suno Assurance. Faites comme tous nos clients prévoyants. Mettez à l'abri ceux qui vous sont chers. Rendez-vous sur monbonprofil.com. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.